Notre Dieu est un Dieu qui se laisse rencontrer. Je dirais même plus que notre Dieu est un Dieu qui veut se laisser rencontrer. Alors je ne sais pas si ce matin, vous avez eu ce sentiment-là pendant ce temps de culte, dans ces temps de louange, d'adoration, de chant. Notre Dieu est un Dieu qui veut se laisser rencontrer. Et pendant que nous étions dans la louange et l'adoration, j'avais cette pensée. Dieu veut se laisser rencontrer par nous ce matin. Et me revenait à la mémoire les paroles de notre professeur d'Ancien Testament au collège qui disait « La vie cultuelle du temple de Jérusalem était une vie basée sur la crainte et la peur, sur la lourdeur de la loi, sur le fait que ce Dieu-là, tout le monde y pensait et personne ne le rencontrait. » Personnellement, c'était un souverain sacrificateur qui, une fois par an, rentrait dans le temple et faisait l'aspersion de l'arche de l'Alliance, du propitiatoire, le coffre, avec du sang et de l'hysope. Et me revenait à l'esprit cette parole de ce professeur qui disait qu'il y avait une telle peur, une telle crainte de rencontrer Dieu que dans le culte, il était prévu que le souverain sacrificateur soit attaché avec une corde, afin que quand il rentre, qu'il traverse le lieu saint et qu'elle arrive dans le lieu très saint, si jamais il devait mourir à cet instant-là, plus personne ne pouvait rentrer, puisqu'il était le souverain sacrificateur. Et donc, dans le culte, il était prévu que le souverain sacrificateur soit attaché avec une corde, qu'il rentre dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Et puis si jamais il devait arriver quelque chose, vous aviez derrière des sacrificateurs avec la corde qui se disaient « s'il ne répond pas, s'il ne revient pas, on tire sur la corde pour le ramener ». Vous imaginez un Dieu qui était loin et que personne ne pouvait rencontrer directement, sinon le souverain sacrificateur. Et c'est pour cela que l'image est belle et le sens est beau de ce que Dieu a fait quand Christ est mort sur la croix. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Plus besoin d'avoir quelqu'un qui rentre une fois par an. Plus besoin de l'attacher pour le ramener si jamais il avait un malaise. Nous avons chacun pour notre part la liberté de rentrer dans la présence de Dieu par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, par cet amour et cette grâce qui est sur notre vie et qui fait que Dieu dit « Il n'y a plus un seul qui soit injuste et indigne ». S'il est recouvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Je me réjouis ce matin de ce que notre Dieu soit ce Dieu-là qui donne accès à sa présence et qui dit « Je veux te rencontrer ». Il n'y a aucun doute quant à la volonté du Père de nous rencontrer. Le seul doute qu'il peut y avoir, c'est « Est-ce que je veux le rencontrer ?» et « Est-ce que je veux me laisser rencontrer par lui. » Parce qu'une rencontre comme celle-là, c'est une rencontre qui change notre vie, pas seulement une fois quand nous décidons de lui donner notre existence, mais chaque jour où j'accepte de le rencontrer, d'aller vers lui, de me laisser toucher par sa présence, interpellé par sa parole, conduit par son Esprit Saint, chaque jour est un jour de transformation et de vie. Pourquoi se priver de cela? Pourquoi? Sinon par orgueil? Par peur ou par crainte? Notre Dieu est un Dieu qui veut se laisser rencontrer par chacun d'entre nous. Ce matin, j'avais le désir de m'arrêter sur le premier psaume qu'il y a dans le livre des psaumes. C'est un psaume que, en son temps, le même professeur m'avait ouvert au niveau du sens, du contenu. Et ça m'avait tellement fait envie que je l'avais à l'époque, je dis bien à l'époque, aujourd'hui mon âge fait que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, Mais à l'époque, comme il était mon professeur d'hébreu, j'avais appris ce psaume-là entièrement en hébreu. Là, je peux dire les 4 premiers mots, voire les 5, et si je les lis. Mais c'est un très beau psaume. Le psaume d'ouverture, le psaume 1. J'aimerais le lire avec vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni des pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. J'aime ce psaume. J'aime les introductions qui nous ouvrent quelque chose de fort et de puissant. On est sur le premier psaume, 150 psaumes. En 2013, à Sotheby's, le livre le plus cher vendu aux enchères, c'est un exemplaire qui date de 1640 du livre des psaumes. C'est une petite église du sud des États-Unis, je crois que c'est la Sous Gospel Church, qui avait cet exemplaire-là d'une traduction de 1640 du livre des psaumes. Il a été mis aux enchères, il a été vendu, écoutez-moi bien, 14,2 millions de dollars à New York. 14 millions de dollars par une église qui avait cet exemplaire-là dans sa bibliothèque. Et c'est ce qu'on appelle le Bay Psalm Book, ou le livre des psaumes, qui a été écrit, enfin, transcrit, traduit à cette époque-là pour les populations. Il y a eu 1200 exemplaires qui ont été édités. Et on n'en connaît que 11 qui demeurent au monde. 14 millions pour un livre des psaumes. C'est le livre vendu aux enchères le plus élevé. Le livre le plus cher, ce n'est pas celui-là, parce qu'il y a un livre qui a été vendu et qui a été acheté par Bill Gates quelque temps après, et qui est un livre, mais pas aux enchères, qui est vendu de personne à personne. Là, et Bill Gates l'a acheté, c'est le livre de Léonard de Vinci avec une collection de ses écrits. Là, on est à 30,8 millions de dollars. Mais le livre vendu aux enchères, c'est un livre de psaumes. Ça vaut la peine. Alors, le mien ne vaut pas 14,2 millions de dollars, mais j'ai le texte. Et vous savez, la valeur du livre des psaumes, ce n'est pas le fait qu'il ait été rare ou une édition rare. Cette église-là, en plus... Il est dit qu'elle a vendu ce livre-là pour les œuvres sociales de son église, rénover le bâtiment, tout. Puis elle se dit, c'est pas grave si on le vend. Sur les 11 exemplaires, on en a un deuxième. Donc ils ont gardé le domaine. Celui-là, on ne le vendra pas. Bon, faites vos bibliothèques, on ne sait jamais. Hein. Il y a peut-être un exemplaire rare. Mais nous avons la parole de Dieu disponible là. Et pas pour 14 millions de dollars. Elle est gratuite, elle est là sous nos yeux. Et ce psaume 1, pour moi, c'est le psaume d'ouverture par excellence, puisqu'il commence par ce mot, heureux l'homme. Alors, il dit heureux l'homme qui ne marche pas. C'est une bonne introduction à toute la collection des 150 psaumes, car il traite d'un thème qui est cher au cœur des psalmistes, c'est ce thème de... Les hommes ont à choisir entre deux caractères, deux conduites ou deux destinées. Chaque homme a à faire un choix. Heureux l'homme qui, Ashrei Ha'ish Asher. Ça, je peux vous le dire. En hébreu, je m'en rappelle. Heureux l'homme qui, point de suspension. Alors, l'homme qui fait quoi? Qui agit comment? Qui se positionne de quelle manière? Heureux l'homme. Moi, j'aime bien qu'un texte me dise voilà qui va être heureux. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour les jeunes qui viennent de passer le bac et qui ont eu peut-être l'épreuve de français pour certains, et qui ont dû plancher sur des thèmes, mais qu'est-ce que le bonheur ? C'est un des thèmes qui revient souvent. Qu'est-ce qui fait le bonheur ? Eh bien, le psaume 1 dit et commence par « Heureux l'homme qui ». Le psaume 1 et le psaume 2 sont étroitement liés, parce que le psaume 1 qui commence le livre, les 150 passages et psaumes, s'adresse à l'homme en tant qu'individu. « Heureux l'homme ». Et le psaume 2 s'adresse aux nations. Il y a le premier psaume qui est un psaume qui s'adresse à l'individu et le deuxième psaume qui s'adresse aux nations. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent. Et c'est un psaume éminemment, je dirais, messianique. De la même manière que le psaume 1 ne peut pas se lire sans que dans nos mémoires reviennent « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux, heureux, heureux. Ce sont les paroles de Christ dans les Béatitudes. Résonnent au travers du psaume 1, à la lecture du psaume 1, ces Béatitudes qui disent que Dieu a pour nous des pensées de bonheur. Pas de malheur. Est-ce que vous avez... Alors, moi, j'aime beaucoup ce passage du Deutéronome. J'ai pour vous des pensées de bonheur et de malheur. Je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. Choisissez. Bon, tu as le bonheur, tu as le malheur. Tu choisis. J'hésite, Seigneur. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Tu me dis bonheur ou malheur. Il faut que je réfléchisse. Tu me dis, j'ai devant moi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ah, oh, c'est pas simple comme choix. On en sourit. Et pourtant, est-ce que lorsque Dieu nous parle, nous ne sommes pas dans cette hésitation-là ? Dieu nous donne un chemin pour vivre avec lui une vie où le bonheur est présent. Pas un chemin tapissé de pétales de rose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, de difficultés, etc. Non, mais il nous dit, est-ce que tu veux vivre une vie où à l'intérieur de toi, il y a cette plénitude de paix ? Cette capacité à vivre chaque instant dans la paix, l'assurance, la joie. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, je ne crains aucun mal. Je suis heureux parce que je suis avec toi, Seigneur. Heureux l'homme. Pourquoi les nations ? Les deux premiers psaumes, l'individuel et le collectif. Le psaume 1 commence par nous montrer le comportement public du juste. Et il y a trois mots dans le premier verset qui, pour moi, sont des mots essentiels. Ces trois verbes. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Et heureux l'homme qui ne s'arrête pas non plus dans telle ou telle attitude ou comportement. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Trois verbes qui indiquent non pas l'impeccabilité de ce que nous sommes, mais qui nous disent, voilà, tu as des choix à chaque moment de ta vie de ne pas marcher d'une manière qui ne soit pas conforme à la pensée de Dieu, de ne pas t'arrêter là où tu veux t'arrêter, qui n'est pas dans la pensée de Dieu, et de t'asseoir là où tu ne devrais pas être assis. Le livre des psaumes, pour les juifs, il y a eu souvent un grand débat, parce que c'est un livre long, 150 psaumes, puis le 119, on n'en parle même pas, hein, c'est... Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de lire le 119 en une seule lecture. C'est difficile, hein ? Oui, tu l'as fait ? À une réunion de prière, voilà. T'étais tout seul ? Non ? C'est osé. Il se trouve que le livre des psaumes a été divisé en 5 parties. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre lecture, mais dans le livre des psaumes, il y a 5 parties. Du 1 au 50, si ma mémoire est bonne, c'est la première partie, etc. Il y a 5 parties. Et en fait, les Juifs qui lisent les psaumes sont comme les chrétiens et se posent la question, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur dans ce livre, comme il y en a dans les évangiles, comme il y en a dans l'Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique? Est-ce qu'il y a un fil qui permet de comprendre ce livre qui a été écrit sur plusieurs centaines d'années avec des auteurs différents, etc. Et en fait, les Juifs ont eu cette pensée en regardant les 5 parties, très arbitraires, mais les parties qui constituent le livre des psaumes. En fait, ils se sont rendus compte que chaque partie de ce livre des psaumes correspondait aux 5 livres de la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ils se disent, mais on voit bien tout ce qui est de l'ordre du commencement, de la loi, etc. On voit bien aussi tout ce qui est de l'ordre de la grâce, du Messie à venir, etc. On voit bien des parties comme ça. Moi, j'aime bien lire les psaumes et puis voir un petit peu qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui. Le psaume 1 commence par « Heureux l'homme, Ashré, heureux ». Dans le dictionnaire « Heureux », le dictionnaire de l'Académie française, j'ai choisi celui qui quand même une certaine hauteur, hein, on n'allait pas prendre le petit Robert. Le dictionnaire de l'Académie française dit à la définition de heureux qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le satisfaire pleinement, les hommes aspirent à être heureux et à vivre heureux. Il a tout pour être heureux. Elle se trouve très heureuse ainsi. Vous devez être bien heureux d'avoir des enfants. Il y a des formules comme ça, c'est le plus heureux des hommes. Ça, c'est quand on regarde ma femme. Les gens disent ça. Un rien le rend heureux. Être heureux de vivre. Voilà, plein de mentions de ce que c'est qu'être heureux dans la définition du dictionnaire de l'Académie française. Et la définition se termine par « dans les béatitudes, heureux les doux, les pacifiques, heureux les pauvres en esprit. » La définition du bonheur dans le dictionnaire de l'Académie française se termine par une référence aux béatitudes. Pour être heureux, qui veut être heureux? Alors, en général, quand vous posez la question à une assemblée pendant la prédication, il y a les timides qui disent bah, « moi, peut-être ». Il y en a tout de suite, comme Christine, « ouais, moi, je suis concerné, il n'y a pas de problème, je veux ». Puis il y en a qui disent « ouais, je ne sais pas, faut voir qui veut être heureux ». Le psaume 1 commence par ça. Heureux, c'est essentiel. Dieu veut notre bonheur. Mais parfois, on peut s'estimer indigne de bonheur. Ça m'est arrivé cette semaine avec un entretien et une patiente qui était dans mon bureau et qui avait vécu tellement de choses difficiles, qui était dans la dépendance. Et du coup, elle se disait, mais est-ce que je mérite encore d'être heureuse avec tout ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai perdu, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, avec mes proches, mes enfants, etc. Est-ce que Dieu dit heureux? Quel que soit notre parcours, quelles que soient les difficultés rencontrées, quels que soient les choix que nous avons faits dans notre vie, Dieu a pour nous des pensées de bonheur en Jésus-Christ. Quelle que soit notre situation. Est-ce que vous savez que, alors là, il faudra vérifier, elle n'est pas là, mais que dans la langue chinoise, il n'y a pas de mot pour désigner le bonheur. Ça n'existe pas. Il y a une foule d'idéogrammes et chacun des idéogrammes représente une situation de bonheur. Mais il n'y a pas de mot pour dire voilà, le bonheur. Nous, on a bonne heure. Hein. C'est vivre une heure plaisante, agréable, épanouissante. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, c'est heureux les pauvres en esprit, ce n'est pas les simples d'esprit. Hein. C'est ceux pour lesquels leur esprit humain accepte de se soumettre à l'Esprit de Dieu et de voir ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont au travers de l'Esprit de Dieu. Si je vois avec mon regard humain, si je me mets tous les matins devant la glace pour me raser, si je me regarde, je ne sais pas si j'ai une raison d'être heureux. en voyant qui je suis, en voyant mes faiblesses, mes manques, ce à quoi j'aspirais, les difficultés que je peux rencontrer. Je ne sais pas si je peux être heureux. Mais si je laisse le Saint-Esprit m'ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Père, si j'accepte que le Saint-Esprit tout à coup me révèle la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, quel est l'homme ou la femme qui accepterait de donner son Fils en sacrifice ? Seigneur, ne me demande pas ça. Dieu l'a fait pour moi. Dieu l'a fait pour moi. Si le Saint-Esprit me révèle cela, alors je ne peux qu'être émerveillé et heureux de voir la valeur que Dieu attache à ma vie, à mon être, à ce que je suis. Heureux ceux qui acceptent de ne plus être soumis au diktat de leur propre esprit construit par l'histoire de la famille, par la culture, mais qui laissent le Saint-Esprit leur révéler quelle est l'étendue de la grâce et de l'amour du Père. Réjouissez-vous. C'est comme ça que se terminent les béatitudes. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous cherchons le bonheur. Mais souvent, nous cherchons le bonheur à la mauvaise place, au mauvais endroit. Je crois qu'il y a une erreur dans notre société, notamment moderne, entre le bonheur et le plaisir. On confond souvent les autres, les deux notions. On confond le bonheur et le plaisir. Alors, on cherche à se faire plaisir, à avoir, à faire ceci ou cela. Mais Dieu veut plus que cela pour nous. Autre chose que le fait de nous faire plaisir. Il veut remplir notre être tout entier de satisfaction et de plénitude. Maintenant, à l'instant T, pas demain. Parfois on se dit, oui, mais je sais bien, un petit peu comme Marthe le faisait devant le tombeau de Lazare. Mais oui, Seigneur, je sais bien qu'à la fin des temps, on vivra heureux dans ta présence et dans le ciel. Oui, mais c'est à la fin des temps. Et avant. Comme disait Woody Allen, y a-t-il une vie avant la mort ? Ce que je veux, c'est ton bonheur, dit Dieu. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel ? C'est Dieu qui parle à Israël en disant, qu'est-ce que tu as de la chance, qu'est-ce que tu es heureux ? Alors, je ne suis pas sûr que Israël voyait les choses de cette manière-là. Hein, on est dans le Deutéronome, ils ont quand même pas mal galéré, ils ont perdu une génération dans le désert, ils ont du mal à rentrer dans la terre promise, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu es heureux, Israël, d'être sauvé par l'Éternel, ton Dieu ? Et si le Saint-Esprit te disait cela maintenant ? Écoute Dieu qui te dit, qu'est-ce que tu es heureux ? J'ai étendu mon salut sur ta vie. J'ai manifesté mon amour de la manière la plus riche, la plus profonde, la plus parfaite qui soit. Il n'y a rien à rajouter. Alors, t'es heureux ? Est-ce que nos yeux peuvent se laisser ouvrir par l'action de l'Esprit ? Il est dit dans le psaume 29, « L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Est-ce que j'ai le sentiment d'être béni par Dieu. Job, lui, disait au chapitre 7, « Souviens-toi que ma vie est un souffle et mes yeux ne reverront pas le bonheur. » Plus loin, il dira, « Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Il fuit sans avoir vu le bonheur. » Il y a une lamentation, pourtant il avait tout ce qui pouvait le rendre heureux. Il a tout perdu. Mais il est même capable d'oublier ce qu'il a eu en disant « Mes jours s'enfuient sans avoir vu le bonheur. » il y a presque, j'ai envie de dire, du péché, ah, j'ose le mot, à ne pas prendre conscience de la bénédiction de Dieu dans notre vie et à nous lamenter en disant, comme Job, voilà, je n'ai rien, tout a disparu, j'arrive aux portes de la mort, je suis à la fin de mon existence, et qu'en est-il ? Et en fait, à la fin du livre de Job, Job réalisera, en disant ces paroles, voilà, « Maintenant, mon œil t'a vu. » Et c'est cela qui me rend heureux. Est-ce que ton œil voit ce que Dieu est pour toi, ce qu'il a fait pour toi ? Dieu a pour ses enfants des pensées de bonheur et pas de malheur. Deutéronome 35, « Regarde, j'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » Choisis ! Moi, je choisis le bonheur. Je choisis le bonheur. J'ai envie d'être heureux avec Dieu, de vivre cette plénitude. Même si parfois, je viens de passer une semaine compliquée à mon travail avec une procédure qu'on mène depuis un an qui nous a stressés, angoissés, etc. On était comme ça mercredi matin, tous en venant au travail avec un expert visiteur qui venait éplucher toute notre... Je peux vous dire que mercredi, j'étais pas heureux. Tout ce qui était de l'angoisse, du quotidien, du travail, la peur pour les salariés, etc., la peur d'avoir fait des erreurs, tout ça était là comme un bloc, comme une montagne. Ça a duré 2 jours. Et vendredi matin, j'étais léger, léger, léger. Je disais à ma femme que je l'aimais. Elle me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis, je me sens bien. Ouais ? Et on se rend compte alors que combien on se laisse piéger par les choses du quotidien qui masquent le soleil de Dieu comme les nuages peuvent nous masquer le soleil et la lumière. Heureux l'homme qui ne marche pas avec ceux qui sont en dehors de la pensée de Dieu, selon le conseil des méchants. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Et là, je m'adresse aussi aux plus jeunes. On a plusieurs manières de marcher. Raymond DeVos disait, c'est simple pour marcher. Mon pied droit décide d'aller devant, mon pied gauche derrière est jaloux, il décide de passer devant, et finalement, je marche. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais, en fait, Dieu nous dit, il y a plusieurs façons de marcher. On peut marcher selon le conseil des méchants, c'est-à-dire aligner son pas, sa marche, sur ce que le monde et l'adversaire nous disent de chemin à prendre, de choses à vivre. On peut marcher selon le conseil des méchants, c'est-à-dire suivre ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui n'est pas dans sa parole. Dieu nous dit comment marcher dans sa parole. Mais parfois, j'ai essayé de mettre un écouteur là, pour voir si ça marchait mieux, pour dire, est-ce que je peux entendre la voix de Dieu là ? Est-ce que la parole de Dieu peut être une parole qui me dit comment marcher ? Alors, la notion de marcher, c'est une manière de vivre. En fait, quand Dieu dit dans sa parole « marcher selon », c'est une manière de vivre. De quelle manière je marche, de quelle manière je vis. Dans la parole de Dieu, il y a une notion de marche qui ressort, notamment dans l'Ancien Testament, c'est marcher derrière à la suite de Dieu. Dans le Deutéronome, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux et en Égypte. L'Éternel, votre Dieu, marchera devant vous. Et il combattra pour vous. Marchez derrière Dieu. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Dieu. Dans le peuple d'Israël, la première tribu qui marchait, c'était Judas. Parce que c'était la louange à l'Éternel. On suit qui ? On suit la louange, l'adoration. On suit Dieu. Est-ce que je marche à la suite de Christ ? Ce qu'il m'a montré, il est mon modèle, il est celui que je veux imiter. plus, le livre le plus vendu derrière la Bible pendant pratiquement 2000 ans, ça a été le livre de Thomas à Kempis du Moyen-Âge qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». J'ai lu en partie, je n'ai pas tout lu, mais c'est le livre qui a plus marqué la chrétienté, « L'imitation de Jésus-Christ ». Pour les chrétiens des premiers siècles, la marche qui était préconisée, c'était celle-ci, « Imiter Jésus-Christ ». Est-ce que c'est cela, mon désir de marcher ? La marche, c'est aussi, dans la Bible, marcher avec courage. Marcher en se disant, voilà, on n'a pas n'importe qui devant nous. Donc, ma marche, elle est empreinte de courage. « Allons !» répondirent-ils. « Montons contre eux, car nous avons vu le pays, voici, il est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession du pays !» C'est dans le livre des Juges. Un peuple qui est frileux, qui se dit, ouais, marcher, d'accord, mais ouais, devant, il y a des géants, il y a des adversaires, il y a des... Oui ! Quand je disais qu'être heureux, c'est être dans une disposition de plénitude, pour autant, ça ne va pas être une marche avec des pétales de roses. Moi, il y a un petit cœur dans le J'aime 1 que j'aime pas. Ma vie est remplie de roses, c'est un beau jardin fleuri. Ouais, tiens, mon œil. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, chanter ce chant, je me dis, mais attends, un jardin fleuri avec des pétales de roses partout, non, c'est pas ce que Dieu nous dit. Il dit, c'est que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu peux être heureux parce que tu es avec moi. Waouh, Seigneur, je marche avec toi, je te tiens la main, tu me tiens la main. Après, les paysages que je traverse, les situations, je suis heureux parce que je suis avec toi, Seigneur. Maintenant, est-ce que c'est cela, marcher avec courage? Là, le peuple disait, oui, on ne sait pas, il y a des géants sur la terre promise, il y a des, dans les montagnes, il y a des Anakim, ils mesurent tous 2,50 m, comment on va faire? C'est la promesse de Dieu. Quoi ? Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas hésitants. Rentrez dans ce que Dieu vous a promis parce que c'est là votre place. Marchez. Allez de l'avant. Alors, il y a aussi la notion de marcher contre. Marcher contre un adversaire. David qui dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. » Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Moi, je ne marche pas en mon propre nom, même si l'adversaire est en face, même s'il s'appelle Goliath, et combien de Goliath peuvent se situer, se positionner sur notre chemin. Est-ce que tu as peur des Goliaths dans ta vie? Est-ce qu'ils t'impressionnent? La parole de Dieu dit au travers de David, moi... Tu marches avec des épées, un bouclier, une armure. Il venait de refuser l'armure de Saül en disant, attendez, moi, je flotte là-dedans, vous me mettez une armure, elle n'est pas à ma taille. Non, 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 moi j'y vais avec ce que je suis, parce que l'Éternel est avec moi. Me prends-tu pour un chien que tu viennes vers moi avec trois pierres et une fronde? Pas de problème, moi je viens juste au nom de l'Éternel des armées, parce que ce que tu es est réprouvé par Dieu. Donc je suis capable d'avancer, de me mettre devant toi. Avec toute ma fragilité, je suis qu'un jeune garçon, à Ishnar. Je suis un jeune homme. Je n'ai pas de force en moi-même. Bien sûr, j'en ai conscience. Mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aux plus jeunes qui sont là. Il y en a un qui a demandé à prendre le baptême. N'aie aucune crainte. Malgré ta jeunesse, tu n'as pas encore la forte musculature du pasteur, ni ses muscles, mais tu peux marcher au nom de l'Éternel des armées. C'est vrai pour tous les jeunes qui sont là ce matin. Tu peux marcher au nom de l'Éternel des armées. Tel que tu es, si ta confiance est en Christ, tu n'as aucune crainte à avoir. Marcher selon le conseil des méchants, dit le psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas de cette manière-là. Quels sont les conseils que tu vas suivre dans ta vie ? Est-ce que c'est ce que le monde te murmure, te susurre à l'oreille en disant « Ce serait bien que, il serait bon que, ah tu sais, passer son temps sur la console pour pouvoir gagner des niveaux, etc. Ah tu sais, pouvoir sortir avec les copains. » J'étais, on s'est inquiété pour une amie et jusqu'à 1h du matin, on a navigué dans les villages alentours. Et à un moment donné, on était à minuit en train de traverser un village au ralenti pour voir si la personne dont nous étions inquiets était peut-être dans sa voiture, dans un coin, etc. Et j'ai vu du coin de l'œil, dans un petit village, tout un groupe de jeunes à minuit et demi dans le noir, regroupés sous une sorte d'abribus, etc. Je me dis, waouh. Je ne sais pas ce qu'il y a d'intéressant à être ensemble à minuit sous un abribus ou dans un village complètement plongé dans le noir. C'est quoi ce qu'on a envie de vivre? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de vivant, de fort? Un père qui te dit, tu sais, j'ai pour toi des pensées de bonheur, de victoire. Selon quel conseil voulons-nous nous mettre en marche? Et puis il y a aussi, dans la marche, quelque chose qui est important, c'est d'avoir un but. Quand je marche, avoir un but. On a Michel qui est ici, qui aime bien faire de la randonnée et de la marche. Alors, il peut partir à l'aventure, mais je suis sûr que dans sa tête, il se dit, tiens, je vais passer par là, puis je vais aller voir ça. Dans la randonnée, il y a toujours à la fois l'aventure, mais aussi, quels sont mes objectifs? Et dans ma vie, quels sont mes objectifs? Je marche vers quoi? Quelle est la direction que Dieu me donne dans ma vie? Quel est le service, l'appel qu'il dépose dans mon cœur? Quels sont les objectifs de ma marche? Oh, c'est sûr, c'est d'arriver en finale dans sa présence. C'est un bel objectif. Mais quelles sont les étapes entre deux? Est-ce qu'une fois sauvé, je dis, bon, ben maintenant, j'attends le train qui va m'emmener là-haut. Je vais faire ce qu'il faut faire, mais j'attends. Je suis à ma station de bus et j'attends. J'attends que le Seigneur m'amène à lui. Si parfois, enfin, quand j'étais jeune, je me disais, si Seigneur, tu pouvais faire que l'enlèvement de l'Église ait lieu avant ma mort, j'ai rien contre. Mais entre le moment où je me donne à lui et celui où je le retrouve, quels sont les buts, les objectifs qui me sont assignés? Marcher. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'arrête pas. Marcher, comment je marche? S'arrêter, où est-ce que je m'arrête? S'arrêter en compagnie de qui? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il était dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est-à-dire qu'il s'arrêtait ensemble pour vivre des choses avec Dieu. Dans ma vie, je m'arrête sur quel point? Est-ce que je m'arrête avec ceux qui peuvent être en opposition avec le Seigneur, ceux qui critiquent le Seigneur, ceux qui critiquent l'Église aussi, ça arrive. Mais je suis dans mon coin, et puis moi, je m'arrête là, et puis voilà, je laisse les choses se faire, et puis j'écoute. Est-ce que je m'arrête comme dans les Actes, en me disant, eh bien, je veux m'arrêter avec ceux qui vivent et partagent avec moi ce message de l'Évangile. Avec qui est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je m'arrête? Alors, on peut s'arrêter pour se reposer. On a parfois besoin de se reposer, de souffler, de retrouver notre rythme. Mais comment s'arrêter? Comment se reposer? Le psaume 30 dit, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Comment est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête en Christ, en lui, de manière à ce que cet arrêt soit un temps où il se révèle à moi? Vous vous rappelez d'Élie, cette histoire où il est effrayé par Jézabel et puis il s'enfuit, il tombe dans le découragement, il va sous un genêt et puis dit « Seigneur, fais-moi mourir !» Je ne vaux rien. Je ne suis pas mieux que les autres. Je suis découragé, je n'ai plus le courage d'aller plus loin. Et puis, Jézabel, Akab, tout le peuple t'a rejeté, moi j'en ai marre, je ne peux plus. Tous les autres prophètes sont morts, je suis tout seul. Et puis on s'arrête sous son genêt et on pleure. Est-ce que nous pouvons être en ce moment, ces temps-ci, dans cette position, comme Élie, on se dit, voilà Seigneur, je suis découragé. Et Élie va monter la montagne. 40 jours de désert quand même d'avant. 40 jours de marche. Et puis il va s'arrêter dans une grotte sur le mont Sinaï, le mont Horeb. Et là, moi j'aime beaucoup l'humour de Dieu. C'est un humour qu'il faut apprécier quand même. Hein. Tu viens de te taper 40 jours de marche dans le désert. Tu viens de monter la montagne. C'est Dieu qui t'a dit, allez, vas-y, mets-toi en route, marche. Et quand tu t'arrêtes, il te regarde, il lui dit, tu fais quoi ici ? Moyen, l'humour. Mais le Seigneur a une manière de dire, qu'est-ce que tu fais là où tu te trouves intérieurement ? C'est pas là dans la grotte où tu te trouves, mais qu'est-ce que tu fais ici, dans ta vie, dans cette position de défaite, de découragement ? Alors, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans ce récit. Sauf que, à un moment donné, Dieu dit à Élie, sors de la grotte, je vais passer. Et il y a un tremblement de terre, il y a un feu, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent, et à chaque fois il dit, Dieu n'était pas là. Ah bon ? Pourtant, je suis allé à la convention où il y avait 5000 personnes, des chants de louanges, et je ne t'ai pas rencontré. Dieu n'était pas là, non. Il y eut un bruit doux et subtil, et à ce moment-là, Dieu a parlé à Élie. Il faut parfois me prendre de la hauteur, s'arrêter, et faire cette rencontre où Dieu nous parle. La vie d'Élie va être à nouveau productrice, efficace. Il va redescendre de la montagne, installer un tel comme roi, un tel comme prophète, etc. Est-ce que tu es prêt aussi à t'arrêter au bon endroit, dans la présence de Dieu, pour le laisser te parler, toucher ton cœur et ta vie, là, maintenant, maintenant? Est-ce que c'est ton besoin? C'est pas dans le bruit, les événements, c'est dans ton cœur, toi face à lui, que les choses peuvent être bouleversées, changées. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont données en plus, en plus. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Vous êtes tous assis là, c'est bien ? Il n'y a que moi qui est debout dans cette histoire. Hein ? Vous êtes tous assis, vous êtes assis où ? Alors parfois on peut être assis hein, là où il ne faudrait pas être assis. Il y a une photo que j'aime bien, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle date de 1932, elle est un petit peu... mise en scène, mais vous avez 11 hommes qui sont sur une poutrelle en train de construire le Rockefeller Center en 1932. Vous savez, c'est ces ouvriers, ils sont en train de casser la croûte, et ils sont alignés sur une poutrelle dans le vide, à plusieurs centaines de mètres, c'est le Rockefeller Center. On voit juste les câbles, la poutrelle, puis vous avez ces 11 hommes. Puis après, il y a une autre photo dans la même série qui est prise, où vous en avez 4 qui sont en train de faire la sieste sur la poutrelle pendant la pause du midi. Vous voulez être assis là ? Vous voulez être assis là ? Dans cette situation-là ? Moi, non, pas vraiment. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas là où je suis dans le repos et dans la sérénité et la paix. Il paraît que ce sont des ouvriers qui appartenaient à une tribu indienne qui ne connaît pas, pour des raisons physiologiques, la peur du vide. Hein, c'est ce qu'on nous a raconté. Mais en tout cas, à chaque fois que je vois cette photo-là, je dis, ah non, moi, ce n'est pas là où je veux être assis. Pas dans l'insécurité, je veux être dans la paix. Est-ce que tu es assis dans cette situation-là dans ta vie, avec une peur du vide, de ce que tu vis, de ce qui existe en toi ? Le peuple qui est assis dans les ténèbres, dit l'évangile de Matthieu au chapitre 4, a vu une grande lumière et la lumière s'est levée. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une lumière. Est-ce que tu veux voir ? T'asseoir là où la lumière de Christ peut inonder ta vie. Celui qui vaincra, dit l'Apocalypse, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et Paul dira, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Pas à la fin de votre vie, hein, maintenant. Maintenant, être assis dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est par essence un terme qui parle d'en haut. Là où règne la volonté de Dieu. C'est-à-dire que je suis au-dessus des contingences de ce monde, de cet espace où l'adversaire peut agir, etc. Même si je suis dans le monde, je suis déjà assis dans les lieux célestes. Et c'est ce qui fait que je peux être en paix maintenant, dans mon cœur et dans mon âme. Assis sous le genêt du découragement, comme Élie. Assis sur la place de l'indifférence ou de la critique. Assis au pied du Seigneur, comme Marie, contrairement à Marthe. Assis dans les lieux célestes, avec cette vue par la foi de notre héritage. Être dans une position élevée qui nous permet d'être au-dessus des circonstances. Voilà ce qui nous est proposé par Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais heureux l'homme qui marchera avec Dieu, qui s'arrêtera avec Christ, qui s'assiera dans les lieux célestes. Heureux cet homme et cette femme-là. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais les chemins que nous empruntons. Tu sais là où nous nous arrêtons. Tu vois où nous sommes assis. Quelle est notre assise dans notre existence ? Nous voulons rentrer dans tes plans qui sont des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Alors donne-nous de vivre cette vie-là avec toi, de goûter à cette plénitude maintenant. Je le veux, Seigneur, pour ma vie. Nous le voulons pour nos existences. Par ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre nos yeux sur tes pensées de bonheur pour nous.